Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, les rêves et les songes, quatrième partie.
Voilà, bonjour à tous. Nous allons poursuivre et terminer notre étude que nous avions commencée il y a quelque temps sur les songes, les rêves et les visions surnaturelles. Alors, vous allez vous souvenir de certaines choses qui ont déjà été dites. Et j'aimerais tout simplement rappeler, pour mémoire, simplement... que nous avions évoqué dans la première partie, donc les songes, les rêves, les visions d'origine humaine. Le côté charnel et psychique, ce qui est tout à fait naturel, parce que nous sommes des hommes. Et dans la deuxième, le deuxième volet, nous avions parlé des faux songes d'origine diabolique. Et puis, la fois dernière, il y a 15 jours, eh bien, nous avions pris des exemples bibliques, donc les songes, les rêves d'inspiration divine dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir le Nouveau Testament et voir de quoi il s'agit. Et puis, nous terminerons donc cette série. Alors, on recommence. On va prendre Livre des Actes, chapitre 2. Livre des Actes, chapitre 2. C'est un texte qui nous a suivis pendant notre réflexion. Et au verset 17, voilà ce que Dieu nous dit. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Deuxième lecture qui nous a entretenu la fois dernière, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 12, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7, puisque... ces révélations, ces manifestations, songes, rêves, visions sont la manière, le moyen, le vecteur, nous pourrions dire, eh bien, des dons spirituels, entre autres les dons de révélation de ce nom. Et à partir du verset 7, il est dit « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. » selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, et je souligne, comme il le veut. Et ce qui était véritablement le témoignage et la manifestation de ces dons de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse, dans une moindre mesure, mais ça fonctionne quelquefois conjointement, mais le discernement des esprits. Voilà pour cette reprise. Simplement, j'aimerais rappeler, faire un rappel de généralité, les visions. C'est un moyen surnaturel, je dis bien surnaturel, que Dieu utilise de façon à interpeller l'esprit humain. Il s'adresse aux hommes de cette manière, surnaturelle, sur les réalités invisibles, invisibles pour nous, se rapportant au présent, parole de connaissance, ou à l'avenir, parole de sagesse. Distinguons deux catégories de visions. Celles qui sont vaines, comme ça, parce que c'est ainsi qu'elles sont appelées dans la Bible, celles qui sont vaines, produites par l'imagination de l'homme, et qui sont produites aussi par orgueil, enfin, soutenues, entretenues par l'orgueil humain et l'illusion. Elles sont charnelles et elles sont psychiques. Et celles qui proviennent authentiquement de Dieu, sur lesquelles eh bien, nous allons revenir aujourd'hui. Une vision peut s'adresser au sens par l'intermédiaire d'un objet extérieur. C'est-à-dire, les sens, c'est l'ouïe, la vue, hein, le toucher, voilà. Hein, et puis, il y en a naturellement encore deux autres. Hein. Donc, ça peut s'adresser, Dieu peut parler à travers nos sens, par l'intermédiaire d'un objet extérieur. Je prends un exemple, Moïse, qui voit le buisson ardent. Et là, on peut dire qu'il y a une manifestation. Alors, on l'appellera peut-être vision, si vous voulez, mais par un objet extérieur. Elle peut aussi s'adresser à la pensée imaginative de l'homme. L'exemple qui est donné, c'est l'exemple d'Ézéchiel, dans le chapitre 1er, me semble-t-il, où il dit à un moment donné, il va voir la gloire de Dieu dans une vision, et il va voir les quatre êtres vivants. Alors il y a tout un chapitre autour de ça, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais vous pourrez le relire. Ézéchiel, c'est quelque chose d'assez phénoménal, hein, cette histoire. Et Dieu va lui parler par l'imagination, la pensée imaginative. Et ça vient authentiquement de Dieu. Et puis, il y a également de même cette capacité que Dieu a à interpeller notre intelligence. C'est quand Daniel, le prophète Daniel, va avoir la révélation des 70 semaines, vous connaissez au chapitre 9. Et c'est intéressant, je prends simplement l'histoire de Daniel, quand il nous est simplement rappelé ces choses, alors je vais vous le dire tout simplement, il est dit ceci, « Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, c'est l'ange, hein, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et s'entretint avec moi et me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Alors après, c'est à lire, hein. Il y a tout le chapitre qui en découle et qui montre, tant pour Ézéchiel, tant pour Daniel, que Dieu, eh bien, là, s'adresse à l'intelligence des hommes, il s'adresse également à la pensée imaginative, ou alors, tout simplement par le sens, par les sens, comme Moïse, hein. C'est simplement un petit rappel. La Bible nous dit d'une manière très claire que les impies sont incapables de saisir le sens d'une vision qui vient de Dieu. Parce que dans 1 Corinthiens, et je pense que là aussi c'est important, c'est une étude, hein, ça demande une petite réflexion pour nous ce matin, mais c'est intéressant quand même pour savoir ce qu'il est de tout cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 et au verset 9, il est dit ceci, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Donc il y a la foi et puis aussi il y a l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est l'amour de la vérité. Pas l'amour de mensonges, de toutes sortes d'histoires, hein, contées, racontées ou brodées par l'esprit divagant des hommes. Dieu nous les a révélées par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je vais un peu plus loin. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, l'esprit impie. Mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il est lui-même jugé par personne. Et il est dit, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Et nous avons la pensée de Christ. Donc c'est bien quelque chose qui est réservé aux croyants, ceux qui ont la foi, ceux qui aiment le Seigneur et ceux qui ont l'esprit de vérité et l'amour de la vérité. Et on se souvient de tout ce que nous avons dit précédemment dans les leçons, où il était question finalement de toutes ces inspirations humaines, charnelles, psychiques, et il était aussi question de toutes ces contrefaçons diaboliques et sataniques qui peuvent amener les gens et qui donnent des fausses doctrines, qui peuvent amener les gens à dérailler complètement. Cependant, la Bible met en garde sévèrement contre les fausses visions et à quoi on les reconnaît ou on reconnaît l'inanité de ces manifestations, de ces manifestations trompeuses. Dans Jérémie, et là nous allons aussi tourner les pages de notre Bible, ce sont des citations que je fais, mais elles nous situent, elles sont importantes, me semble-t-il. Dans Jérémie, chapitre 23, il est question justement de cet aspect des choses. Alors, Jérémie 23, verset 13 d'abord, il est dit ceci. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égorgé mon peuple d'Israël. Alors, vous comprenez de quelle manière il s'agit d'un égorgement. Troubler la conscience. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge. L'adultère, c'est la trahison de Dieu. Adultère spirituel. Ils fortifient les mains des méchants, etc., etc. Je continue au verset 16 et 18. « Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. » Verset 18. « Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendue ?» Verset 25 maintenant. « Ne suis-je pas un Dieu de près ? Dit l'Éternel. Ne suis-je pas ainsi un Dieu de loin ?» Verset 25. « J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe. » Et quelqu'un qui vous dit « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe », eh bien, tenez-vous quand même un petit peu à l'examen. Je dis bien à l'examen. Je ne dis pas que ça ne vient pas de Dieu. Mais faisons attention. « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe. » Jusque à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Verset 27, « Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple. » Parce que c'est toujours dans un but, conscient ou inconscient, de faire dériver le peuple de Dieu, de l'amener à s'égarer, sous le couvert d'une spiritualité. Alors, ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leur père ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille et le froment? Et puis, vous pourrez lire la suite. Or, les authentiques visions de Dieu portent toujours l'empreinte de son esprit de sagesse, son esprit de pureté, son esprit de vérité et de justice. Si derrière des proclamations véhémentes et hasardeuses, il n'y a pas cette reconnaissance de ce que Dieu est lui-même dans ses prérogatives divines, alors à ce moment-là, nous pouvons véritablement réfléchir. Nous sommes au stade de la réflexion. Et nous devons à juger, qui veut dire examiner. Et il nous est dit de retenir ce qui est bon et de rejeter ce qui est mal. Il faut bien connaître la parole. Rempli du Saint-Esprit, alors à ce moment-là, la connaissance de la parole et être rempli du Saint-Esprit va nous conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit nous est dit dans Jean, c'est l'esprit de la vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Et nous vivons dans un monde de confusion, dans les milieux qui sont aussi les nôtres. Faisons très attention. Maintenant, j'ai parlé des visions, je voudrais dire deux mots avant d'aller plus loin. Maintenant, les songes et les rêves. Ce sont des idées, des pensées, qui se présentent durant le sommeil des hommes. Alors, on en a vu des exemples la semaine dernière, voilà, il y a 15 jours. Ceux-ci doivent toujours être soumis, comme les visions, à examen lorsqu'ils comportent des révélations prétendument divines pour en déceler la nature et identifier sûrement l'inspiration. C'est Jean qui nous dit dans son épître, chapitre 4, verset 1er, « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. » Je crois que ça, c'est un minimum pour les enfants de Dieu, excusez-moi. On est passé de l'incrédulité avant notre conversion, et on s'aperçoit qu'il y a multitude d'enfants de Dieu qui sont passés de l'incrédulité à la crédulité la plus totale. Ce que Dieu nous demande, c'est l'équilibre. C'est d'avoir la foi. On ne peut pas croire tout. Il faut sortir de notre incrédulité. C'est le Seigneur l'a fait avec notre conversion. Maintenant, il faut savoir aussi discerner et pas tomber dans cette crédulité béate et que tout vient de Dieu et que tout est béni. Attention, hein. Ça, c'est extrêmement dangereux. C'est comme ça que le peuple d'Israël s'est souvent fourvoyé et égaré dans toutes sortes de méandres qui l'ont amené à des catastrophes. Alors, il faut identifier l'inspiration. Il faut réfléchir. Il faut demander à Dieu, il faut demander au Seigneur. Voilà, il y a ceci. Qu'est-ce que je dois penser? Qu'est-ce que tu penses de cela, Seigneur? Et pas prendre pour argent comptant tout ce qui nous est dit, tout ce qui nous est raconté. Des faux prophètes, il y en a eu. Des faux prophètes, il y en aura encore. Des faux messies, il y en aura. L'antéchrist, quand il viendra, il déploiera véritablement tout son arsenal, et je peux vous dire qu'il a de quoi. Et il va particulièrement viser l'église de Jésus-Christ. Le monde, il les tient, il les connaît, et il les manipule comme il veut. Mais il y a une chose dans laquelle il veut véritablement maintenant faire le forcing, et faire l'assaut, c'est l'église de Jésus-Christ pour faire déchoir cette église, l'église de Christ. Selon le critère suivant, dans l'Ancien Testament, si toutes ces manifestations, songes, visions et rêves, s'ils étaient immoraux dans le sens le plus large, ou contraire à la révélation de l'Écriture, ils étaient déclarés faux. Très souvent, l'Ancien Testament le sanctionne. Ils étaient déclarés faux, et ceux qui en étaient les porteurs étaient déclarés des faux prophètes. Et quiconque en Israël, et vous allez dire que quand même c'était assez rigoureux, quiconque en Israël cherchait au moyen de songes et de visions à détourner du culte de l'Éternel, de l'adoration de Dieu, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils étaient mis systématiquement à mort. C'est terrible, hein? Parce que ce n'étaient pas des vrais, c'était des menteurs. Et ils se servaient du nom de Dieu pour faire passer des mensonges. Et le mensonge, il vient d'où? Il vient du menteur. Jean, chapitre 8, verset 44. Il est menteur depuis le commencement. Genèse, chapitre 3, tout a commencé comme ça. Et derrière le mensonge, il y a le meurtre. Il y a la mort, mort physique, mais il y a la mort spirituelle également. Alors c'est grave. C'est très grave. Parce que c'est un travestissement de la vérité en mensonge. Et avant d'entreprendre maintenant le Nouveau Testament, lisons Deutéronome, c'est quand même assez éloquent. Deutéronome chapitre 13, et voilà comment les choses étaient vues et traitées. On va lire 5 versets simplement, ça c'est le témoignage de l'Ancien Testament par rapport à tout ce que nous disons de ce travestissement, de cette dénaturation, on pourrait dire. Alors écoutez, s'il s'élève au milieu de toi un prophète et ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, s'il y a accomplissement, et qu'il te dit tout de suite après, allons vers d'autres dieux. Est-ce que vous croyez que le diable est capable de faire des miracles? Mais bien sûr. C'est l'association des deux. Il va t'annoncer un signe, il va y avoir un accomplissement, étonnant, hein? Et après on te dit, mais tu vas aller vers d'autres dieux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Des dieux que tu ne connais point, et servons-les, adorons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète et de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Ça, c'est comme quelque chose. Si nous sautons sur tout ce qui bouge, si pour nous le surnaturel, ça vient uniquement de Dieu sans voir l'autre aspect ténébreux, occulte, hein, magique, hein, qui fascine, alors à ce moment-là, il faut bien faire attention. Parce que beaucoup sont tombés dans le piège. Hein. Faisons attention. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous craindrez sa parole. vous respecterez ce qu'il vous a dit et surtout les avertissements qu'il vous a donnés, les signes de reconnaissance du vrai et du faux, vous obéirez à sa voix et vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Donc il n'est plus question d'aller vers d'autres dieux. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort parce qu'il a parlé de révolte contre l'Éternel. C'est le mot mot révolte et rébellion. Vous vous rendez compte la gravité des choses ? Et ça paraît anodin, parce que ça se fait sous le couvert du spirituel, ça se fait avec le couvert du nom de Dieu. Alors, c'est une révolte, parce que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui vous a délivré de la maison de servitude, là où il y avait tant d'occultisme, tant de contrefaçons. Et il a voulu te détourner de la voie dans l'Éternel. Ton Dieu t'a ordonné de marcher, tu ôteras le mal du milieu de toi. Alors voilà les choses. Quand nous avons terminé, il y a 15 jours, notre troisième volet, on avait cité cet aspect de l'évangile, c'est un évangile si vous voulez, c'est Job. Quand il est dit ceci, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Qu'est-ce que nous avions vu la dernière fois en conclusion? Nous avions vu, tout simplement, que Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre, et que les hommes souvent passent par-dessus. Il parle par des visions, il parle par des songes, mais la communication qui est donnée à travers ça, c'est pour des avertissements. C'est la confirmation de sa parole, c'est le détournement du mal, et surtout, surtout, parce que ça c'était quand même la chose qu'il fallait souligner, la préservation de l'orgueil, parce que le surnaturel, la manipulation du surnaturel, rend les hommes orgueilleux. Ils rendent fous. Ça les rend, excusez-moi, dingues. Ah oui, je suis quelqu'un, je parle au nom de Dieu. Dieu m'inspire, Dieu me parle en direct, il me parle pour vous, vous rendez compte? Ça c'est quelque chose, ça vous donne une autorité, ça vous donne une carrure. Après vous pouvez déjà... Eh oui, c'est ça le problème. Voilà. Alors maintenant on va en venir au Nouveau Testament. Et vous allez voir qu'il y en a quand même beaucoup moins que dans l'Ancien Testament, pour le fait même qu'il y a moins de pages. Ça c'est sûr, mais quand même. Et moi, je crois qu'il y en a moins. Il y en a des belles visions, des beaux songes et des belles révélations. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit maintenant a été donné, vous comprenez. Il n'est plus avec nous, comme dans l'Ancien Testament, il était avec les prophètes, il était avec les hommes de Dieu. Mais maintenant, il est en nous. Nuance, hein, c'est important. Et la manière de conduire maintenant le peuple de Dieu, l'Église, je dirais, n'est pas différente. Mais je crois que on a beaucoup plus maintenant. Beaucoup plus. Alors, la première manifestation de ces visions, de ces songes, de ces rêves surnaturels, le premier dans le Nouveau Testament qui reçoit un rêve surnaturel, c'est Joseph, l'autre Joseph, vous savez, le père adoptif de Jésus, le fiancé de Marie. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit autour de cet aspect-là? Écoutez, dans Matthieu chapitre 1er, je lis pour vous si vous voulez, mais vous pouvez toujours consigner, il nous est dit que Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer parce qu'il avait appris qu'elle était enceinte, se proposa de rompre secrètement avec elle, comme il y pensait. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et au verset 24, comme quoi les choses se sont accomplies, Joseph s'étant réveillé de son sommeil, de cette condition extatique, nous pourrions dire, alors il s'est réveillé et il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, il prit sa femme avec lui. Voilà, c'est le premier dans le Nouveau Testament, c'est lui qui ouvre la porte. Et qu'est-ce que c'est ça? Puisque nous avons fait ce cheminement parallèle la fois dernière, c'est une parole de connaissance. Parole de connaissance. Dans ce que nous avons lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 12. parole de connaissance pour indiquer à un croyant, en l'occurrence Joseph, ce qu'il faut faire dans une situation embarrassante. Eh oui, Dieu a pris la peine de lui envoyer un songe, un ange, pour lui donner eh bien, cette révélation, parce que la situation était vraiment, vraiment très embarrassante. La grossesse inexplicable de Marie. Joseph a eu encore deux autres songes. Le premier pour revenir en Égypte, vous vous souvenez, et habiter en Israël. Quand il a dû fuir la colère d'Hérode. Et Dieu lui a parlé encore par un songe en disant « Maintenant tu peux revenir, il n'y a plus de danger, il n'y a plus de problème. » Le deuxième de cette série, il en a eu trois, plus précisément pour s'établir à Nazareth en Galilée. Voilà, donc par étapes. C'est un privilège. Il y a certainement des frères et des sœurs qui ont, au milieu de nous, eu cette expérience, non ? Eh oui. Alors peut-être on n'ose pas le dire ou on est un petit peu craintif. Mais moi je crois que Dieu aujourd'hui parle encore de cette manière, par ce moyen. Ouais. Ça reste encore d'actualité, mes frères et sœurs. Et même si on ne s'appelle pas Joseph, il nous est dit qu'il a été divinement averti en songe. Et c'est une conduite de l'esprit. Et il a su obéir. Et c'est lui qui l'a eu, hein. C'est pas quelqu'un qui lui a dit « Ah bah tu sais, j'ai eu un songe pour toi, tu devrais faire ceci et cela. » Je pense que ce serait bien. Ça peut se faire. Mais faisons attention. Et faisons attention dans la façon dont nous interprétons les choses et nous servons le Seigneur, que ça ne soit pas eh bien, quelque chose qui discrédite finalement ces perles précieuses que Dieu nous a données, qu'il a données à l'Église d'aujourd'hui. Perles précieuses. N'oublions pas que les mages qui avertit en songe de ne pas revenir vers Hérode. Ils avaient fait un voyage quand même. Et ils l'avaient fait sur des semaines et des semaines. Et là, ils ont été conduits par l'étoile, naturellement. Et à un moment donné, alors qu'ils auraient peut-être fait autrement, eh bien, l'Esprit de Dieu, par une révélation de songe, eh bien, les a finalement... les a avertis qu'il ne fallait surtout pas revenir vers Hérode. Parce que lui, il était mal intentionné et il avait déjà perpétré ou déjà le projet d'éliminer tous les enfants de Bethléem. Quelque chose. Ensuite, un songe étonnant, vous allez voir hein, qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein, dans le... Un songe étonnant, on peut dire, est accordé à la femme de Pilate. Hey, une païenne, quelqu'un qui ne connaît pas forcément eh bien, la révélation de Dieu, lors du procès de Jésus, hey, au moment où Jésus va être là, eh bien, envoyé à la mort, c'est une parole de connaissance là aussi. Pilate, au départ, a de bonnes dispositions pour Jésus. Il se dit, mais quel mal cet homme a-t-il fait ? Et il essaie de voir un peu comment on pourra arranger la chose, parce que bon, il n'y a rien à dire. Hein. Quel mal a-t-il fait alors que Jésus n'avait fait que le bien ? C'est très difficile. Hein. Mais quand on est de mauvaise foi, et puis que vous avez la foule, que vous avez votre réputation et votre place, même s'il s'appelle Pilate, procurateur de l'Empire, hein, eh bien, à un moment donné, il va vaciller. Hein. Et il va dire, ben, qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Et il va faire une chose complètement inouïe et complètement aberrante. Il va relâcher un bandit notoire pour faire condamner un juste par pression. Tout simplement parce qu'on fait pression sur lui. Et sa femme va être tourmentée la nuit précédente. Et elle lui dira, se précipitera vers son mari, vers Pilate, pour lui dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Entendez par là à cause de Jésus, que tu vas renvoyer à la mort. J'ai beaucoup souffert en songe. Dieu se sert de la femme de Pilate. Oh, il n'en sera rien, hein, parce que Pilate préfère encore la vanité. Il préfère encore, lui qui est quand même un homme de justice, eh bien l'iniquité, l'injustice, et il va faire un déni. Déni de justice. Quel témoignage pour l'histoire, hein. L'apôtre Pierre, Alors on a déjà passé l'évangile. Hein. L'apôtre Pierre tombe en extase et cette extase va être permise pour le guérir une fois pour toutes de son racisme religieux. Actes chapitre 10. Vers la 9e heure, chapitre 10 verset 3, vers la 9e heure du jour, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi. Avait-il fini sa sieste? Je ne sais pas. Peu importe. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement. Donc, ce n'est pas quelque chose de méandreux, d'opaque. Hein. Il vit clairement, dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui, s'ils étaient froids, il répondit « Mais qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. » Et il s'en est souvenu, maintenant, voit des hommes, etc. La marche à suivre à lui être révélée par une vision. Dans une vision. Et après, au fur et à mesure des événements dans ce chapitre 10, Dieu va lui donner encore autre chose. Vous savez, la nappe qui descend avec les reptiles, les quadrupèdes, pas deux. Et Dieu va lui dire, écoute, il a eu faim. Dieu s'est servi également de ses sens-là, on pourrait dire, la faim. Et à ce moment-là, Dieu va lui dire, tue et mange. Alors Pierre, bon israélite, va dire, mais certainement pas, moi je n'ai jamais fait rien rentrer d'impur dans ma bouche. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse des... Et Dieu lui a dit, écoute, hein, maintenant, hein, ce que Dieu a déclaré pur, eh ben, ne regarde pas comme impur. Et maintenant, tu termines et tu vas annoncer l'évangile à tous ces gens parce que je suis venu aussi pour qu'ils entendent le message de la grâce de Dieu et le salut et qu'ils puissent recevoir la vie éternelle. Ah, Pierre, il a compris. Hein. Oh, il a eu des belles leçons, Pierre. Hein. Mais Dieu est obligé de lui injecter quand même quelques séries de piqûres hein, d'en haut. C'est beau, hein, tout cela. C'est vrai que je trouve que c'est formidable. On va aller un peu plus loin. Paul, alors lui... Paul est ravi en esprit et enlevé jusqu'au troisième ciel, hein, seulement trois. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. Alors on va voir dans 2 Corinthiens chapitre 12, c'est un très beau texte, et puis avec toute la leçon que cela peut comporter aussi pour nous, hein, de faisant référence aussi à nos faiblesses. Hein. C'est quand je suis faible que je suis fort. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il est dit ? Au chapitre 12, 2 Corinthiens, parce qu'on le provoquait, Paul. Et on disait, mais pff, toi, t'es rien du tout. Hein. T'as même pas vu Jésus. T'es un apôtre de seconde zone. Et pourtant, il y a des gens qui parlent, ils savent pas de quoi ils parlent. Hein. Alors il dit, s'il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Et là, on va toucher le ciel, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il est dit ? Je connais un homme, et vous remarquerez sa modestie. Hein. Il ne dit pas « moi, Paul », comme il le dit quelquefois d'autres, dans d'autres situations. Mais je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel, si ce fut dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou dans son ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, il fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendrit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alors après, il explique, hein, je me glorifierai, mais des paroles, il a été saisi. Alors bien sûr, on est un peu dans le même caractère de tout cela. Et il en tirera des leçons. Et vous savez que ces textes nous sont laissés aussi pour nous. Ravi en esprit. Là aussi, comme je le disais par rapport aux visions, je crois que Dieu a fait des choses extraordinaires aussi dans nos vies. Ouais. Peut-être que chacun d'entre nous, nous pourrions dire que quelquefois, parfois dans notre vie, rarement, mais nous avons été ravis en esprit. Ouais. Peut-être au temps de notre conversion, au moment où on a eu la révélation de Dieu, ou dans une circonstance peut-être de grand danger, ou... À un moment ou à un autre, nous étions à la croisée des chemins et qu'il fallait véritablement qu'il y ait... Parce que Dieu avait un plan pour nous. Ouais, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais je crois qu'encore que Dieu est capable de le faire aujourd'hui. Ouais. Dieu est capable de nous ravir en esprit. En tous les cas, c'est souvent très fugitif, c'est très court. C'est quelque chose qui nous a imprégné et qui nous a marqué pour notre vie entière. Est-ce que nous sommes aujourd'hui? Nous le sommes aussi en raison de cette visitation et de ce saisissement en esprit où Dieu nous a parlé. On n'en dira pas plus, mais c'est bien. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Mais quand on passe par ce genre d'expérience, du calme, hein, on reste modeste. Hein, parce que justement, le danger est là. C'est pour ça que c'est écrit après. C'est quand je suis faible que je suis fort, en raison d'eux. Mais bon, je voudrais quand même vous dire, hein, on n'est quand même pas la cheville de Paul, hein, de toute façon. Une autre fois, il a une nuit, une vision, celle d'un Macédonien qui l'appelle pour entendre l'Évangile. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Après avoir été empêché par le Saint-Esprit à deux reprises d'aller prêcher l'Évangile dans une région puis dans une autre, il nous est dit, pendant la nuit, Paul eut une vision. Il a vu un Macédonien lui apparu, mais c'était une vision, hein, et lui fit cette prière, passe en Macédoine et secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Concluant que le Seigneur nous appelait et a annoncé la bonne nouvelle. Je trouve que ça, c'est aussi formidable. Il a eu la vision d'un homme qui criait en disant « Annonce-nous la parole de Dieu pour notre salut !» Et tout de suite après, il va y avoir Lydie qui va se convertir, sa famille. Il va y avoir, dites-moi, vous connaissez votre Bible quand même, non? Il va y avoir le centenier de la prison de Philippe et toute sa famille. Et puis il y en a eu certainement d'autres. Hein. C'est comme ça que l'Europe, notre Europe à nous, a été évangélisée. Ça commençait par là, hein. Oui, nous étions un petit peu là, ce Macédonien qui criait et qui crie encore, envoie-nous l'Évangile, envoie-nous ta parole, envoie-nous le salut en Jésus-Christ. Hein. Ça commençait comme ça. Hein. À Corinthe, Paul, c'est Christ qui lui apparaît dans une vision nocturne, il nous est dit, et il l'exhorte, parle et ne te tais point, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et c'est comme ça que les Corinthiens, enfin, une partie des Corinthiens sont devenus chrétiens, et que nous avons ces deux fameuses épîtres. Parle et ne te tiens pas. C'est Christ qui lui est apparu dans une vision nocturne. Alors, on arrive maintenant à l'Apocalypse. Alors là, si on peut dire quelque chose, alors vraiment, c'est un livre entier, là. C'est quelque chose, hein. Livre de la Genèse. Il nous est dit que Dieu créa le ciel et la terre, et il dit. Et nous voyons que dans le dernier livre de la Bible, ce n'est que de la révélation. D'ailleurs, Apocalypse, ça veut dire révélation. Ouais. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que c'est finalement l'accomplissement de l'évangile de l'Apocalypse de l'Ancien Testament, qui est le livre de Daniel. On pourrait dire ça comme ça, si vous voulez. Parce que le livre de Daniel, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Mais là, c'est l'Apocalypse de toute la révélation de Dieu. Et nous voyons que Jean va recevoir, et son Apocalypse va recevoir l'apothéose, si vous me permettez, l'apothéose biblique de la révélation, de la vision prophétique et des songes divins. Ce sont des paroles de sagesse. Parce que c'est une projection dans un avenir proche, mais surtout lointain. Comme le livre de Daniel, d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il nous est dit ? Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, je vis et je regardais. Ça donnait 22 chapitres. 22 chapitres. On remarquera, et maintenant, c'est tout, hein, dans le Nouveau Testament, mais c'est suffisant. Et merci Seigneur de ce que l'Église encore peut être visitée par des dons de révélation, dons du Saint-Esprit, par des paroles de connaissance, paroles de sagesse, révélation des esprits, discernement des esprits, et puis bien d'autres choses. Elles fonctionnent séparément ou peut-être quelquefois tout en même temps. Mais à travers des songes, des visions et des rêves. Alors, maintenant on va parler de Jésus. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit certainement pouvoir nous enseigner, c'est lui, hein, sur la question. Or, on remarquera qu'en ce qui concerne Jésus, les évangiles ne font jamais état de ses rêves. Il est homme parmi les hommes, il vit comme tout un chacun. Pourtant, le surnaturel, le miraculeux, le divin chez lui est permanent. Il est permanent. Quelques exemples en ce qui concerne Jésus. Il voit et il guérit à distance. Vendredi soir, de quoi nous avons parlé? Je ne pose pas la question à ceux qui n'étaient pas là. On a parlé du centenier officier du roi qui va vers Jésus pour dire, eh bien, viens, mon enfant est mourant, descends avec moi, et puis guéris-le parce qu'il est à l'extrémité. Et Jésus va pas répondre à sa demande. Il va dire maintenant, retourne chez toi, parce que ton enfant est vivant. Jésus voit, Jésus sait, et Jésus guérit à distance. Dans bien des pages de l'Évangile, nous voyons que Jésus dévoile les pensées secrètes sur le champ. Par exemple, les pharisiens en ont fait les frères. Mais quelle pensée vous avez dans votre cœur? Oh là là, c'était quelque chose. Et je peux vous dire que ça les mettait plutôt mal à l'aise. Quelle pensée! Même Pierre y passe. Jésus affronte et dénonce Satan, là où les hommes ne le voient pas. Donc il y a quand même cette manifestation de la révélation. Il est transfiguré, ça c'est aussi saisi en esprit. Et il va y avoir là, dans sa présence sur la haute montagne, non seulement les trois qu'il a choisis, mais il y a Moïse et Élie. C'est un monde, C'est un monde sublime. C'est un monde, comme Paul dira, qu'il n'est pas permis de décrire, parce que les mots sont trop courts, ils sont insuffisants. Et nous voyons qu'à ce moment-là, Élie, Moïse s'entretiennent avec lui. Alors, ces nuits de prière, de quoi sont-elles faites? Puisque dans le sommeil des hommes, Dieu parle, dans l'état conscient, il parle aussi. De quoi sont-elles faites? Eh bien, peut-être que la seule réponse que nous pourrions donner, c'est que baigné dans une telle intensité spirituelle, on peut penser à beaucoup de choses, mais on n'en sait rien. Il ne nous est pas donné. On s'aperçoit que Dieu va parler à travers les hommes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, mais en ce qui concerne Jésus. Parce que Jésus, c'est tout. Parce qu'il est tout. Parce qu'il est Dieu. Et une chose que nous savons, ce que l'on sait par contre, ce sont les résultats. Et les résultats, ils sont à travers ses paroles d'amour, à travers ses paroles de sagesse, à travers ses révélations, à travers ses guérisons, à travers ses délivrances, à travers le surnaturel, le miraculeux. Toutes ces choses qui appartiennent au ciel et qui passent entre ses mains et il les répand parmi les hommes tout autour de lui. Jusqu'à nous, par le Saint-Esprit. C'est ça ce que l'on sait de Jésus. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, diront ses adversaires. Et toute la Bible, toutes les pages de l'Évangile, des pages de l'Évangile, sont émaillées du miraculeux et du surnaturel. Jésus. Jésus est Dieu. Il faut le dire. Et ne pas en douter. La puissance, l'efficacité. Alors je peux dire qu'avec Jésus, ce n'est pas du rêve, ce n'est pas de l'illusion, c'est la réalité du ciel parmi les hommes. Hier et encore aujourd'hui. Quelle leçon d'équilibre propre à nous inspirer la mesure et la modération. Et nous ne sommes que les dépositaires. Qu'avons-nous que nous ayons reçu? Et nous n'avons pas à nous glorifier d'avoir un don, d'avoir ceci, etc., etc. Ça, c'est une inspiration qui ne vient pas du Seigneur. Je l'ai dit la semaine dernière ou la fois d'avant, je ne sais plus. Mais une chose qui est certaine, c'est ni notre fonction, ni notre titre qui doit nous mettre en valeur. On est d'accord? Ouais. On ne va pas se balader avec notre carte de visite et nos états de service, non, ça va. Quand on voit comment les disciples ont été ramenés à l'humilité par Jésus, il leur a dit, écoutez, ça va, hein, c'est bon. Je termine. Écoutez, je reprends le texte initial. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Il y en a pour tout le monde. On est d'accord. Croire encore à cette réalité, c'est le mot. C'est le mot que l'Église doit entendre. Nous devons croire encore à cette réalité, que le Seigneur baptise du Saint-Esprit ceux qui ne le sont pas et qui le demandent et qui le croient et qui lui obéissent. Le Seigneur nous renouvelle dans la vie de l'Esprit, nous qui sommes baptisés du Saint-Esprit. Première Pentecôte et après il y en a d'autres. Et il y a encore des Pentecôtes aujourd'hui. Mais nous devons croire que le Seigneur, eh bien, répand son esprit et qu'il est encore capable de se manifester à travers les dons et pas seulement dans une réunion de prière ou dans un culte. Mais il est capable de se révéler dans nos maisons, il est capable de se réveiller dans notre intimité à n'importe quel moyen et par n'importe quelle façon dont nous connaissons dans la Bible et dans n'importe quel temps. Mais il faut le croire. Nous sommes encore dans les temps du souffle de Dieu, de la vie de l'esprit. Et des manifestations, croire encore à cette réalité. Et attention à la sclérose, hein, vous savez ce que c'est, hein, la sclérose de la foi. Oui, parce que on l'a lu tout à l'heure, Dieu parle toujours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je dis bien qu'il parle toujours, et j'ai ajouté toujours. Il parle encore, et il parlera jusqu'au moment où il reviendra. Parce que c'est vrai que les langues disparaîtront, les révélations disparaîtront, tous ces dons disparaîtront. Ça c'est sûr, mais pour l'instant il n'est pas revenu. Vous croyez qu'il est revenu? Non, non, il n'est pas revenu. Alors donc nous sommes encore dans les temps de la grâce et de l'effusion du Saint-Esprit avec la manifestation de toutes ces choses. Si le Saint-Esprit, et je vais finir, si le Saint-Esprit habite en nous, on a cette belle parole de Jésus dans Jean 14 et 16, chapitre, quand il est dit... Je ne vous laisserai pas orphelin. Le Saint-Esprit ne sera pas seulement avec vous, mais il sera en vous. Je viendrai à vous, je viendrai en vous. Alors si le Saint-Esprit habite en nous, il nous sanctifiera. Il nous animera et nous utilisera à travers finalement les moyens qu'il a donnés. Pour édifier l'Église, toujours l'édification de l'Église, parce qu'il faut se souvenir, 1 Corinthiens chapitre 14, c'est que tout ce que vous faites, vous le faites pour l'édification de l'Église, pas pour votre gloriole, pas pour dire je suis monsieur ou madame et je suis... Il est de notre responsabilité de livrer nos facultés psychiques à son influence, c'est-à-dire notre âme. Parce que si, véritablement, tout en disant que nous sommes soumis au Seigneur et que nous laissons notre âme battre la chamade à toutes les pensées, toutes les imaginations, toutes les impressions et toutes les fluctuations, alors je peux vous dire que ça va donner un drôle de mélange. Nous avons besoin de nous livrer corps, âme et esprit à son contrôle pour que dans l'équilibre et l'harmonie, nous développions cette sensibilité. Sanctifié. Cette souplesse sanctifiée à ses inspirations, tout en restant dans la modestie et dans l'humilité. C'est le critère, c'est la règle. Le rêve surnaturel, c'est Dieu qui le donne. On l'a lu tout à l'heure. Il le distribue comme il le veut. Seigneur, donne-moi des rêves. Donne-moi des songes. Donne-moi des visions, Seigneur. Alors, c'est pas comme ça qu'il faut prier, vous m'excuserez. Parce que si vous fonctionnez comme ça, eh bien, vous allez voir qu'un jour, c'est pas que le Seigneur veut pas vous en donner, mais un jour, il y en a un autre qui va vous envoyer des visions et des songes et des rêves, vous allez voir. Ah oui. Et ça, ça fait des choses terribles. Parce qu'il est capable de gonfler, hein, l'adversaire. Et de contrefaire. Alors, c'est Dieu qui donne. Sachons écouter sa parole. C'est ce que nous faisons ce matin. Bien modeste pour moi, en tous les cas. L'Esprit éclairera notre intelligence. Il purifiera nos pensées. Il assainira notre mémoire. Il enflammera nos cœurs. Il affinera notre conscience et il équilibrera notre raison. Seigneur, on a besoin de ça, hein ? Vous trouvez pas ? Seigneur, on a besoin de ça dans nos églises. Oh là là ! Parce que la vie de l'esprit, il faut y croire. Elle est belle, elle est noble, elle est à la gloire de Dieu. Mais quelquefois, il y a des choses qui sont un peu moins nobles et un peu moins glorieuses. Il fortifiera notre volonté et il assagira notre imagination. Il y a des gens qui ont une imagination très fertile. On a entendu des choses. On nous a quelquefois présenté des bouquins qui avaient été écrits. Je peux vous dire, je ne vous dis pas plus, mais franchement, c'est terrible. Et il y a des chrétiens qui sont sortis là-dessus comme si c'était vraiment la manne qui descend du ciel. Ah oui, je peux vous dire qu'ils ne sont pas frais aujourd'hui. Parce qu'ils sont dans une confusion. Ils sont dans un état de choc de conscience. Ils ne savent plus où est le bien, où est le mal. Ils ne savent plus ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'adversaire. Et souvent, ils sont en dehors de la route. Ils sont sur le bas-côté. C'est terrible. Ah oui. Vous savez, s'il y a des livres, s'il y a un livre qu'il faut garder précieusement, c'est la parole de Dieu. Si vous permettez quelques conseils, lisez des bons commentaires bibliques avec des gens qui ont l'esprit. Moi, d'accord. Mais le reste, excusez-moi, j'en dis pas plus, parce que. Si les fruits existent dans nos vies, le don de l'esprit manifestera la gloire de Dieu. Et j'ai mis le fruit avant le don. C'est pas inintentionnel. Alors, de jour ou de nuit, et je finis, nous pourrons dire, comme un jeune enfant devenu un grand prophète du Seigneur, dans l'Ancien Testament, vous allez le reconnaître, nous pourrons dire, parle Seigneur, parce que ton serviteur écoute. Parle Seigneur, parce que ton serviteur écoute. Et j'ajouterai la prière de Paul qu'il faisait aux Éphésiens. Nous la faisons tous ensemble. On la fait pour chacun personnellement. Alors il disait ceci, que Dieu vous donne un esprit de sagesse et un esprit de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Parle, Seigneur, parce que ton serviteur et ta servante écoutent. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, nous savons comment tu nous as trouvés, comment tu nous as cherchés, comment tu nous as appelés. Nous savons, Père éternel, que tu as émaillé par certains aspects de notre vie, dans certains temps de notre vie, des choses qui ont été véritablement, Père éternel, très fortes pour nous. Oui, Seigneur, nous avons parlé des choses. Et ce n'est pas de la théologie que nous avons fait ce matin. Ce n'est pas, Seigneur, une leçon qui sortirait des livres, mais c'est avant tout, Seigneur, une expérience. Et nous savons, par ta grâce, qu'en effet, Seigneur, tu parles à tes enfants, tu parles à tes fils et à tes filles, tu parles à tes serviteurs et tes servantes, tu parles à tes serviteurs et servantes, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient vieux. Nous voulons te rendre grâce et te remercier. Parce que tu nous as bien rappelé ce matin, encore une fois de plus, que dans les derniers temps, que dans les derniers jours, j'enverrai et je répandrai mon esprit. Alors Seigneur, tu passes au milieu de nous. Je te demande, Seigneur, de baptiser du Saint-Esprit nos frères et nos sœurs qui ne le sont pas encore. Et ils ont tout simplement à ouvrir leur cœur et croire que c'est une promesse et un cadeau de Dieu. Ils peuvent le recevoir en cet instant. Et puis pour nous, Seigneur, nous voulons d'abord te présenter, en effet, te demander pardon parce que nous sommes souvent en deçà de ce que nous devrions être. Oui, Seigneur, pour le parler en langue. Pour notre édification personnelle, pour notre communion avec toi. Seigneur, alors, c'est vrai, Seigneur, pour moi-même, en tous les cas, je te demande pardon, Seigneur, que je ne sais pas le faire assez souvent, assez fréquemment, Seigneur. Mais je te demande, Père éternel, que les uns et les autres, tu nous renouvelles puissamment dans le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, l'Esprit de vérité qui nous conduit, qui nous conduira toujours dans la vérité et qui nous rappellera les paroles que tu nous as données. Oh, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Visite-nous, Seigneur, fais-nous du bien ce matin. Et donne-nous, Père éternel, à travers toute cette session, toutes ces études que nous avons faites, que Dieu parle encore. Il parle toujours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. et nous voulons dire comme Samuel, eh bien parle Seigneur, parce que ton serviteur écoute. Merci mon Dieu, bénis ton peuple, bénis mes frères et mes sœurs, réjouis-les Seigneur, de ce que, en effet, le fruit ne va pas sans le don, et le don ne va pas sans le fruit. Merci mon Dieu, Amen.